الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخوتي في الله نستأنف دروسنا فيما يتيسر من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح مع الشيخ الدكتور محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى ورعاه. وقد وقفنا في درسنا الماضي في باب دعوة الوالدين فمن فضلك أخي نعيم اقرأ إن شاء الله الحديث الثالث والثلاثون. حدثنا عياش بن الوليد. نعم حديث من أبي هريرة. ثالث وثلاثون. عندك حديث 33.
حدثنا عياش.
نعم.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل قرية تختلف إلى الراعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة ولدت فأتي الملك بتلك المرأة فولدت فقال ممن؟ قال من جريج.
قالت
من جريج. قال أصاحب قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا.
قال فما الذي
تبسمت؟
نعم.
فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم.
حسن، بارك الله فيك. السلام. بسم الله.
J'ai appris à la radio la mairie. J'ai entendu le message de l'enfant de la radio salamée. Aucun nouveau-né n'a parlé au garçon excepté Rissa, il n'en a rien, et le compagnon de Joël. On demanda au prophète d'Allah qui est le compagnon de Joël. Il répondit Joël était un dévot qui vivait dans un ermitage. Un homme conduisait son troupeau de vaches en contrebas de son ermitage et une femme de la ville, une prostituée, fréquentait cet homme. Un jour, la mère de Joël vint et l'appela. Joël, mais il priait. Alors, tout en continuant sa prière, il se demanda « Ma mère ou ma prière ?» Cependant, il choisit de donner priorité à sa prière. Elle appela une seconde fois et il se demanda encore « Ma mère ou ma prière ?» Et il continua sa prière. Elle appela une troisième fois et une fois de plus, il se demanda « Ma mère ou ma prière ?» Mais encore une fois, il donna priorité à sa prière. À la fin, voyant que son fils ne lui répondait pas, sa mère dit « Oh Joël, qu'Allah ne te fasse pas mourir avant que tu n'aies vu le visage des prostituées, puis elle s'en alla. » Un jour, on conduisait la femme au roi, car elle venait d'enfanter. Il lui demanda « Qui est le père de cet enfant ?» Elle répondit « Joël. » Il interrogea celui qui vit dans l'ermitage. Oui, répondit-elle. Il ordonna détruisez son ermitage et amenez le mort. Ils détruisirent son ermitage à coups de pioche jusqu'à ce qu'il s'effondra. Ils attachèrent avec une corde sa main à son cou et ils partirent avec lui. Il croisa des prostituées. Lorsqu'il les vit, il sourit et elles le regardèrent. Arrivé devant le roi, il interrogea « Sais-tu ce que dit cette femme ?» Il répondit « Que dit-elle ?» Il lui répondit « Elle prétend que tu es le père de son enfant. » Joël demanda à la prostituée « Prétends-tu cela ?» Elle répondit « Oui. » Alors il demanda « Où est ce petit ?» Elle le porte en son sein, répondirent-ils. Il s'est adressé à lui et Joël interrogea l'enfant « Qui est ton père ?» L'enfant répondit « Celui qui conduit le troupeau de vaches. » Le roi dit alors « Veux-tu que nous reconstruisions ton ermitage en or ?»« Non, dit Joël. » « En argent. » »« Non, non plus. » »« Alors comment le veux-tu ?» Il répondit « Construisez-le comme il était. » Le roi lui demanda alors « Pourquoi as-tu souri lorsque l'on t'a amené ?» Il répondit « Une affaire que je connais. Ma mère a invoqué Allah contre moi et il l'a exaucé, puis il les informa de ce qui s'était passé avec sa mère. »
Alhamdulillah. Fahadi al-qissa قصة فتنة جريج التي ورد ذكرها في هذا الحديث من القصص العجيبة والله صحيحة. والغرض الهدف من تدوينها في هذا الكتاب هو أن دعوة الوالد على الولد بحق بشرط أن يكون بحق مستجابا. فإن أم جريج رحمه الله تعالى قد دعت عليه بتلك الدعوة فحصلت عليه تلك المصيبة لكن لما كان مجتهدا في بقائه في صلاته لماذا؟ إثارا لمرضاة الله عز وجل فحصل له الفرج لأنه كان مجتهدا مع ذلك في بقائه في صلاته لمرضاة ربه جل وعلا حصل له ذلك الفرج وصارت له كرامة من كرامات الله ألا وهي كلام الولد في المهد وصار له في ذلك الفرج. والحقيقة هذه القصة فيها عظة وعبرة للمسلمين كما قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله تعالى فيها عظة وعبرة للمسلمين أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم ولا يتعرضوا لدعائهم عليهم فيأتوا بالأقوال والأفعال قد تسبب ضيق الصدر عند الوالد أو الوالدة فينطلق الواحد منهما إلى الدعاء عليه فتعجل له العقوبة وتؤجل فيكون هو الجاني على نفسه هو الولد الذي هو الجاني على نفسه لأنه تسبب في دعاء الوالدين عليه. Donc ce récit, mes frères, le récit de la fitna de Jurayj, qui est mentionné ici dans ce hadith, fait partie des récits extraordinaires, surprenants et authentiques, bien sûr. Et ici, l'imam al-Bukhari, il a rapporté dans son livre ici, afin d'exposer le fait que l'invocation du père ou de la mère, en toute justice bien sûr, est exaucée. Même si elle est faite en défaveur de leur enfant, et ni contre leur enfant, elle est exaucée. À condition, bien sûr, que la dua ou que l'invocation a été faite en droit, en toute justice. Et pas en étant injuste, bien sûr. Car Allah n'est pas injuste. D'accord ? Et donc, lorsque la mère de Jurayj, rahimahullah, a invoqué contre lui, il a été éprouvé par cette épreuve-là, cette moussiba. C'est une moussiba, malgré tout. Il a été éprouvé par cette histoire et cet événement. Mais malgré ça, comme il est resté en prière, pas pour désobéir à sa mère, il est resté en prière parce qu'il a privilégié la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par ignorance, car il croyait que le fait de rester en prière à ce moment-là était mieux que de répondre à sa mère. Donc il n'a pas fait par désobéissance à Allah ou par désobéissance à sa mère. Non, il a cru bien faire. Il a cru bien faire. Donc par cet acte-là, Allah tabaraka wa ta'ala, malgré ça, bien qu'il l'ait éprouvé, il lui a quand même donné une issue de secours et il a sauvé quand même de la ruse de cette prostituée.
Taïeb. Et plus que ça, Allah Jalla wa Ala lui a fait vivre un des miracles, entre guillemets, parmi les miracles d'Allah Tabarak wa Ta'ala, qui est le fait qu'un enfant en bas âge, un bébé, hein, a prononcé des paroles claires et explicites. Vous voyez ? Donc ici, comme il a dit le Cheikh Zayd al-Madkhili, rahimahullah, il a dit qu'en vérité, ce récit-là contient une exhortation, un encouragement pour les musulmans d'être bienfaisants envers ses parents. Et surtout, de ne pas s'exposer eux-mêmes à ce qui les invoque contre eux, en disant des choses ou en faisant des choses qui les rendraient mécontents d'eux. Vous voyez ? Car si cela arrive, il se peut que leur père ou leur mère invoquent contre eux. Et si jamais leur invocation est faite en toute justice, elle est exaucée. Et donc, par conséquent, il sera exposé au châtiment ici-bas ou dans l'au-delà. Ici-bas ou dans l'au-delà. Quoi qu'il arrive. Taïeb. Et en plus, c'est lui-même qui est coupable de ça. C'est lui qui est coupable de ce châtiment-là, car c'est lui qui a provoqué cette invocation-là de ses parents à son encontre. Yaqul le Cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, fi ma'ani al-kalimat, تراجع الحديث تراجع الحديث وهذه الكلمات قد وردت في قصة الولد الثالث الولد الثالث الذي قد تكلم في المهد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهناك تراجع الحديث أي بين الأم وولدها تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها حدثت الأم الصبي والصبي حدثها ثم يقول كلمة الراهب من هو الراهب؟ الراهب هو الذي يعتزل الناس ويفرغ لعبادة ربه في دير والجمع رهبان المفرد راهب والجمع رهبان والمؤنث راهبة وأصله في النصارى وكلمة صومعة مكان مرتفع صومعة مكان مرتفع أو جبل يسكنه المتعبد بقصد الانفراد ثم أطلقت على الدير فالدير والصومعة شيء واحد دونك يجي الشيخ رسلان حفظه الله تعالى ici il explique les mots du deuxième hadith ou plutôt du même hadith mais dans sa version longue où il est cité les trois enfants qui ont parlé dans le berceau. D'accord ? Donc on a vu l'enfant donc, de la prostituée par rapport à l'histoire de Jureyj. Il y a également Isa ibn Maryam, alayhi salam. Et il y a aussi le bébé, vous rappelez, qui a discuté, qui a dialogué avec sa mère lorsque sa mère a vu deux personnes et qu'elle a invoqué certaines invocations et que le bébé lui a répondu en lui disant que yani, elle se trompait en vérité sur ces personnes-là. Donc il dit, le prophète taraja al-hadith, c'est-à-dire que la mère a discuté avec son bébé et le bébé a discuté avec elle. D'accord ? C'est un hadith, non? À vérifier si le hadith il est authentique ou pas. À vérifier si le hadith il est authentique. Allahu a'lam. Non. Oui. Parce que là dans ce hadith il dit c'est bon. وبين صبي يرضع من أمي فمر الرجل راكب على دابة فارها وشارة وحسنة فقالت أم اللهم اجعل ابني مثل هذا. نعم. Donc faut voir si le hadith est authentique. Là en tout cas dans ce hadith là il est mentionné que il dit le prophète صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. Ils n'ont parlé dans le berceau que trois. Isa ibn Maryam, Sahib Jureyj, le bébé de, du berger donc, à l'époque de Jureyj, et le troisième quoi, dont on est en train de parler. Al-Muhim. Donc Al-Rahib, le terme Al-Rahib, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui s'est écartée des gens, qui s'est écartée de la civilisation, entre guillemets. D'accord ? Il est parti s'exiler en haut d'une montagne. Vous voyez ? On peut traduire par un moine. Un moine, d'accord ? Ou un ascète. Zahid. Et qui s'est écarté donc de la société afin de s'adonner totalement à l'adoration de son Seigneur. Jalla wa ala, dans un endroit qu'on appelle en arabe Dayr. Donc Dayr, c'est un peu comme Sawma'a. Donc Sawma'a, c'est le terme utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut dire aussi Dayr. Donc Dayr, c'est un monastère. Ou comme ils ont traduit eux, c'est quoi? Comment ils ont traduit? Voilà, un ermitage. Non, un monastère. El-Muhim, voilà, Rahib, c'est ça, c'est un moine. Et le pluriel c'est Ruhban et le féminin c'est Rahiba. Et ce mot là donc il dit le cheikh aslohu fi nasara. Donc l'origine de ce mot yani provient des Nasara. Allahu a'lam. Donc Sawma'a c'est comme on a dit à la base, c'est un endroit élevé, ça peut être une montagne, d'accord, le haut d'une montagne, une colline dans lequel celui qui s'adonne à l'adoration donc demeure et il vit donc exclu et isolé à l'écart de la société. Et c'est un endroit qu'on peut appeler également Dayr, comme il dit ici. Yu'thiru salatahu. Yu'thiru salatahu hadha bi nisbati li Jureyj. Yu'thiru salatahu. Ay yamdhi fiha murajjihan haqq as-salati ala haqqi ummihi. Donc par rapport à Jureyj, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré sa prière. Il a préféré sa prière à sa mère. C'est-à-dire donc qu'il est resté en prière malgré le fait que sa mère l'appelait. ثم يقول ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا في سياق دعاء الأبوين لولدهما وعليه وقد يكون المرء مبتلا بأب أو أم من أصحاب الأعصاب المتوفزة فيكون الأب عصبيا ها؟ فيكون الأب عصبيا أو تكون الأم عصبية مستثارة مفتازة فهذا ابتلاء ينبغي على الإنسان أن يضعه في محله وأن يعلم أنه إذا لم يصبر إذا خالف إذا عق إذا لم يجب فدعت عليه فهي قاسمة الظهر. Il dit donc que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté ce hadith donc dans le chapitre de l'invocation des parents en faveur de leurs enfants ou en leur défaveur. D'accord? Il se peut donc que l'enfant soit éprouvé par un père ou une mère. Yani, qui sont atteints de, qui sont nerveux. D'accord? Donc il y a des parents qui sous contrôle, qui sont calmes, etc. Et il y en a d'autres qui sont assez nerveux. D'accord? Ça, c'est une épreuve pour l'enfant. Al-Muhim, si le père il est nerveux, que la mère elle est nerveuse, hein, qu'ils ont les nerfs, hein, qu'ils démarrent au quart de tour, comme on dit, ben ça c'est un ibtila, c'est une épreuve pour la personne. Et donc, la personne devra agir en conséquence et faire attention encore plus. D'accord? Et il doit savoir que s'il ne patiente pas face à cela, ou s'il, pire, s'oppose à eux, ou est malfaisant envers eux, ou ne répond pas à leurs demandes, eh bien, il faut qu'ils s'attendent à cela, notamment à ce que ses parents invoquent, hein, contre lui. Et si jamais cela arrive, et que cela est fait en toute justice, eh bien, cela sera catastrophique pour lui. Cela sera catastrophique. فأم جريج لم تصبر وإنما دعت عليه بدعوة تستنزله من علياء طهره إلى الحضيض إلى الحضيض الأوهد وإنها لفقيها فهذا رجل متبتل في طهر يسبح في بحاره وهو مقبل على عبادته فلم تنتقي له إلا هذه الدعوة ألا تريد أن تجيب أمك ولا أن تنظر في وجهها فاللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات فاستنزلته من علياء طهره إلى أسفل السافلين وهذا عند الرجل الطاهر الطيب وقعه عليه أليم وإنما كان متفقها فلم يحسن الاختيار فأخطأ أمي وصلاتي في صلاة غير مفروضة. Donc la mère de Jureyj donc n'a pas patienté et elle a donc invoqué contre lui et elle l'a fait donc une dua ou une da'wa, une invocation par rapport à l'état de son fils, par rapport à ce qu'elle connaît de son fils, à ce qu'elle savait de son fils. Donc elle savait et elle constatait chez lui que c'était quelqu'un de pur. Hein? Donc il restait tout le temps en adoration, éloigné de la société, donc forcément c'était quelqu'un de pur. Et sachant cela de lui, elle a invoqué une chose qui va faire que il va sortir de cet état-là de pureté extrême à l'opposé extrême qui est le fait de forniquer avec une prostituée ou de regarder une prostituée. Kavala Doha, en vérité, elle a dit, elle a invoqué contre lui qu'il voie le visage des prostituées. Donc il sort de son état de pureté extrême du fait qu'il ne voit jamais le haram. Il ne voit rien de haram. H24. Et elle a voulu donc par sa doa qu'il voie quelque chose. Et Annie, parmi les choses les plus interdites qui soient. Alors que cet homme-là, comme on a dit, était immergé dans la pureté. Et baigné dans, hein, dans l'adoration. Et donc, elle n'a trouvé comme doa que celle-là. Qu'il sorte de sa mère, comme il dit ici, de son océan de pureté, qu'il y sorte et qu'il rentre dans cette chose-là. Car il savait qu'il était, c'était des choses parmi lesquelles il détestait le plus. Naam. Donc elle a dit, Allahumma, ô Allah, ne le fais pas mourir jusqu'à ce qu'il voie le visage des prostituées. Non. Et donc, Jureyj, malgré son ascétisme, malgré sa pureté, n'avait pas ce fiqh, cette compréhension-là, qui est que lorsque tu pries une prière facultative et que tes parents t'appellent, tu dois leur répondre. D'accord ? Donc là, on voit la différence entre l'abid et l'alim. D'accord ? On a l'abid qui est forcément quelqu'un de pur, quelqu'un de bien, qui s'adonne à l'adoration, mais qui n'a pas forcément cette science. D'ailleurs, c'est pour cela que les ulama du hadith, les savants du hadith, il ne suffit pas que la personne soit une personne pieuse, mais il faut aussi qu'elle possède la faculté de transmettre le hadith qu'elle a en sa possession. D'accord ? Donc il ne suffit pas que la personne soit pieuse, il soit connu pour être pieux, pour pouvoir transmettre un hadith. D'accord ? Il faut non seulement qu'elle soit bien sûr connue pour sa piété, mais aussi qu'elle soit connue pour avoir une bonne mémorisation, pour avoir du ilm, pour être connue, d'être habilité à transmettre un savoir. Et ce n'est pas forcément le cas d'un ascète ou de Jureyj, par exemple. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc on voit ici qu'il s'est trompé, qu'il a fait une erreur. Il a choisi de rester en prière alors qu'en vérité, il aurait dû sortir de prière, sachant en plus que sa mère ne peut pas patienter, ne patiente pas. D'accord ? Parce que les ulama, ils ont détaillé ici cette mas'ala. Tu es en prière. Ton père ou ta mère t'appelle. Qu'est-ce que tu fais ? Les ulama, ils disent, si c'est une prière obligatoire, tu ne peux pas sortir de prière. Tu n'as pas le droit. Mais, il est bien que tu leur fasses comprendre que tu es en prière. Surtout si tu sais qu'ils sont assez nerveux et qu'ils vont t'en vouloir. Hein, et que ce n'est pas des gens qui vont comprendre forcément que le droit d'Allah passe avant leur droit. Eh bien, tu peux, par exemple, te racler la gorge. Pour leur faire comprendre que tu es là, que tu les as entendus, mais que tu es en prière. Ou alors tu fais tasbih, subhanallah. Tu dis subhanallah, mathalan. Ou alors si tu es en train de réciter le Coran, tu récites à voix haute. Alhamdulillah, rabbil alamin. Comme ça, ils t'entendent, ils savent que tu es en train de prier. Ou alors tu invoques à voix haute. D'accord ? Al-Muhim, tu ne sors pas de prière. Mais si c'est une prière facultative, qu'est-ce que tu fais ? Le ulama dit si c'est des parents compréhensifs. Si tu sais que lorsque tu vas dire à ton père ou à ta mère j'étais en prière, ils vont rester. Au contraire, ils vont te dire ah, machin, excuse-moi. Ils vont s'excuser. Dans ce cas-là, tu restes en prière. Normal. Vous voyez ? Mais si tu sais que si tu restes en prière, ils ne vont pas t'excuser. Au contraire, ils vont peut-être invoquer contre toi ou là, te maudire. Dans ce cas-là, tu sors de prière. Il n'y a aucun problème. Tu sors de prière et tu la rattraperas plus tard. Non. Vous voyez ? فآثر الصلاة على الأم فلما دعت عليه استنزلت ألا رحمة الله تعالى عليه وإلا رحمة الله تعالى عليه فعلى الإنسان أن يخشى ذلك ويجتهد في البر فإنك لا تدري لأنك ربما استفزت حركاتك أعصاب أمك أو أعصاب أبيك فأتت دعوة فتفتحت أو تتفتحت لها أبواب السماء فقبلت تصلى بنارها حتى الممات وقد لا تقوم لك من بعدها قائمة فالله المستعان وعليه التكلان. Donc il dit ici, Jureyj, rahimahullah, il a préféré donc de rester en prière que de répondre à sa mère. Et donc sa mère, elle a invoqué contre lui. Hein? Et son invocation a été exaucée. C'est pour ça qu'il a souri à la fin. Il a souri à la fin du hadith parce qu'il a vu les visages des prostituées. Il a souri parce qu'il a compris qu'Allah avait exaucé la dua de sa mère. D'accord ? Mais comme on a dit, Allah Jalla wa Ala, il a été clément envers lui par rapport quand même à son intention qui était d'adorer Allah tabarak wa ta'ala, et il a sorti de cette épreuve en faisant parler le bébé. Donc il faut que l'être humain fasse attention à ça et se préserve de ça, et qu'il donc fasse les efforts nécessaires d'être bienveillant envers son père, envers sa mère, car il ne sait pas. Et Annie, il se peut qu'une simple parole ou un simple geste va énerver sa mère, va énerver son père, et va faire qu'ils vont invoquer contre lui, et que cette invocation-là va être acceptée par Allah, qu'Allah Jalla wa Ala fera s'ouvrir les portes du ciel, et qu'elle va être acceptée, subhanallah. Et il se peut qu'il en soit éprouvé jusqu'à sa mort, juste à cause de l'invocation de ses parents. Et Allah Jalla wa Ala est celui à qui on demande de l'aide et à qui on place notre confiance. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. أولا عيسى ابن مريم عليه السلام. وعيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل. آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم. بل آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أي بين عيسى وبين محمد ليس هناك نبي. ما في نبي بين عيسى وبين محمد عليه السلام. فإنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي. كما قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بين محمد وبين عيسى بن مريم عليهما السلام نبي، وهذا هو الراجح كما قال هنا، كما أخرج البخاري ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم. أنا أولى الناس بابن مريم، أي أقرب الناس، أقرب الأنبياء بابن مريم. ثم يقول: الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. والحديث صريح وواضح. بيجي دونك سو حديث Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne cette chose-là qui est que n'ont parlé dans le berceau que trois bébés. Le premier est Isa ibn Maryam. Donc Isa, il dit le cheikh, c'est le dernier des prophètes des enfants d'Israël. C'est le dernier qui est venu. C'est même le dernier prophète avant Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de prophète entre Isa et entre Mohammed. Donc entre les deux, on a cette fatra, ce laps de temps-là, qui se compte bien sûr en siècles, dans lequel il n'y a pas eu de prophète. D'ailleurs, il dit Allah tabarak wa ta'ala dans le sens rapproché, surat As-Saff, verset 6, il dit: et lorsque Isa, le fils de Maryam, a dit: ô enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, venant confirmer ce qui est venu avant moi dans la Torah. C'est-à-dire ce avec quoi est venu Moussa, je suis venu le confirmer. Et en même temps, je suis venu annoncer la venue d'un messager qui viendra après moi, Mimbadi, après moi, dont le nom est Ahmed. Donc il n'y a pas de prophète entre Isa ibn Maryam et entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un hadith qui prouve clairement cela, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ainsi que Abu Dawud, le hadith d'Abi Huraira, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: je suis le plus proche des gens de Ibn Maryam. Je suis le plus proche des gens du fils de Maryam, de Isa alayhi salam. Puis il dit: les prophètes sont les enfants de Allat, Aulad Allat. Ou comme il a dit dans un hadith autre: Inna al-anbiya ikhwatun min Allat. Ikhwatun min Allat. Ummahatuhum shatta. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Hada huwa ma'na al-Allat. Ma'na Aulad Allat bima'na ummahatuhum shatta wa abuhum wahid. D'ailleurs, donc l'expression les enfants de Allat, ça veut dire quoi? Dans un hadith, dans un autre hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: les prophètes sont tous les enfants de Allat, ou les frères de Allat. C'est-à-dire qu'ils ont ummahatuhum shatta. Leurs mères sont nombreuses, ils ont plusieurs mères. Chacun ont une mère différente. A une mère différente, pardon. وَدِينُهُمْ وَاحِدْ. Mais leur religion, elle est unique. Leur religion, elle est unique. Ils ont des mères différentes, mais leur religion, elle est unique. C'est-à-dire que tous les prophètes sont venus avec la même base, qui est Tawhid. الْعَقِيد الْإِيمَان بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَ وَالْكُتُبُ وَالْرُسُلُ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ. Ils sont tous venus avec cette même religion, cette même croyance, qui est la foi au destin, la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, la foi au jour dernier, etc. Mais ils ont chacun une mère différente.